L'inaudible.com. Qu'est-ce qu'ils font? Je sais pas combien de temps on va encore poireauter ici. Mais c'est que ça caille en plus. Ils se rendent pas compte, eux. Ils sont bien au chaud dans l'igloo. Et nous... Ah, enfin, le voilà. Ah, ils ont l'air prêts, dis donc. Enfin. Oui, ils s'approchent du micro. Écoutez, je crois bien que le secrétaire général de l'inaudible va prendre la parole.
Sur proposition de Pompidou le chien... L'inaudible a nommé Walter Proof, ministre d'État chargé du Walter's Weekly Show, de la pingouinitude primordiale, de l'accessibilité incrémentale et de toute cette sorte de choses. Voilà. C'est tout. L'inaudible réunira le gouvernement du Wesh, comme à l'habitude, samedi prochain à 19h, heure de l'apéro. Je vous remercie.
Non, merci. Non, merci, c'est très gentil. Je ne m'y attendais pas, vraiment. Je dois dire que c'est un grand honneur que me fait l'inaudible en me renouvelant sa confiance pour diriger et présenter le Wesh. Je tâcherai de m'en montrer digne, avec toute mon équipe. Et... Ouais, on le sait que c'est toi l'équipe, Pompidou. Ouais, pas la peine d'en rajouter. Qu'est-ce que je disais déjà? Ah oui. Je tâcherai de me montrer digne de ce choix, qui est une preuve qu'on peut poursuivre une tradition dans le changement, tout en effectuant des bouleversements dans la continuité. Hein ? Oui, et réciproquement, si tu veux. Bon, allez, on se casse.
This is the Walter's Weekly Show.
C'est la semaine de Walter.
Salut, c'est le Walter's Weekly Show, la semaine de Walter, saison 2, épisode 54. T'as vu, c'est moi que j'ai été nommé. Ouais. Directeur du Wesh, en quelque sorte. Hein, quoi? C'est directeur que tu comprends pas, Pompidou? Attends, j'appelle mon dictionnaire.
Dei comme directeur. Nom masculin du latin di, la première porte, et rectus à droite. Depuis l'aurore de l'humanité et jusqu'à la semaine dernière, si les troupes du pacte de Varsovie se foutent pas sur la gueule avec celles de l'OTAN, le mot directeur a toujours désigné un personnage important. Alors qu'une blanche vaut deux noires, un directeur vaut 12 berrichons. On ne dit pas un petit directeur, on dit un chef de rayon. On ne dit pas un grand directeur, on dit un chef de diamètre.
Ouais, dis donc, c'est bon, hein. Ouais, c'est du déproge. Moi, mon dico favori, c'est le dictionnaire superflu à l'usage de l'élite et des bien nantis, de Pierre Desproges. Oui, un autre de mes maîtres à penser. Ah oui, j'en ai plein. Alors comme ça, si de temps en temps, il y a un mot un peu compliqué dans ce Wesh, hein, t'hésites pas, tu me le dis, on regardera la définition. Bon, ça va, toi? T'as passé une bonne semaine? Je dois pas trop gonfler le remaniement à la télé? Oh, c'est pas grave, on en reparlera plus, va. Sauf avec les tweets, un petit peu tout à l'heure, ouais. En attendant, il y a du taf, allons-y. J'ai vu un film, l'autre jour, pas mal du tout, ah ouais. Le réseau social, ça s'appelle. C'est l'histoire d'un mec, il crée un site, c'est juste une sorte de plateforme où on se connecte pour se faire des copains, tu vois. Et d'un seul coup, c'est l'escalade vertigineuse.
Le site a enregistré 43 connexions en l'espace d'une soirée.
48 connexions.
Je dois faire quelque chose de marquant pour épater mes amis.
Tenez notre rendez-vous. Ils nous reçoivent.
Allez. Mais alors les ennuis commencent.
Cette idée pourrait valoir des dizaines d'euros. Voire des vingtaines même. Ils nous prennent vraiment pour des truffes, hein.
Ils disent qu'on a copié les copains d'avant.com.
C'est .fr.
Ah bah c'est bon ça.
Vous avez eu 220 connexions en une semaine.
En 5 jours.
Mais 100 euros c'est pas cool. Ce qui est cool c'est 100 euros plus des tickets resto.
Le site grossit de jour en jour. On en est déjà à 2 connexions sur les 2 derniers jours.
Moi, 2 derniers mois.
Ah moi
ouais, ça marche bien.
Alors il y a une tentative de conciliation.
Si vous aviez vraiment avant tes copains d'avant, bah vous auriez tes copains avant.
Ils ne prendraient pas pour des truffes. Un petit peu.
En fait, ce film, Le Réseau Social, c'est l'histoire d'un homme qui pèse aujourd'hui plus de 2500 euros, juste pour avoir eu une idée toute simple.
Et j'ai repensé à votre site, là. Les copains d'avant, enlevez le lait. Copains d'avant. Cola pour tout le monde.
T'aurais du Coca Light.
Cola Light.
Alors oui, je sais, on m'a dit que c'était tout piqué sur un autre film. mais c'était en anglais, alors je l'ai pas vu. Et puis qu'est-ce que je te dise, les gens sont jaloux, voilà, puis c'est tout. Tiens, à propos, tu connais la minute à propos? C'est un site où on apprend plein de trucs, en une minute ou deux, pas plus. Il y a de l'infographie, du commentaire audio, très classe. Par exemple, à propos de la véracité des sondages.
Mon équipe administratrice de sondages intégralement constituée de mon cousin et moi-même avons interrogé les Français sur la question suivante. Pendant l'acte sexuel, préférez-vous être dominant ou dominé? 34% ont répondu qu'ils préféraient être dominant. 18% dominé. 22% ont répondu « Connard, bande de pervers, allez-vous faire soigner ?» 1% a répondu qu'il n'en savait rien, qu'il n'avait que 12 ans et qu'il avait tenu à ne pas faire son catéchisme pour éviter ce genre de problématique. Enfin, 25% ont répondu qu'il n'avait pas le temps, prétextant un rendez-vous chez le dentiste. Nous sommes donc allés voir les 74 chirurgiens-dentistes officiant dans l'arrondissement dans lequel nous nous trouvions, 74 chirurgiens qui ont répondu que eux-mêmes étaient un peu en retard dans leur consultation et que leurs patients auraient eu largement le temps de répondre à cette petite question, cela dit un peu personnelle. Suite à cela, nous sommes retournés voir les 25% de personnes, une fois rentrées chez elles, qui nous ont alors répondu d'aller nous faire foutre, bande de connards, vous devriez vous faire soigner. La proximité des deux réponses nous fera donc conclure que le résultat d'un sondage dépend bien souvent des dentistes.
Voilà, moi j'aime bien. Un autre ? Allez, un autre. À propos des causes de suicide.
Le suicide et la variété française sont de véritables fléaux dans notre pays. Voyons tout de suite ces quelques chiffres qui nous viennent de l'INSEE. L'Institut National de Statistique d'Europe de l'Est. En 2009, 24% des gens qui se sont suicidés l'ont fait à cause d'une rupture amoureuse, 21% à cause d'un licenciement professionnel et 55% à cause de la variété française. Le graphique suivant représente le nombre de suicides en France sur les 10 dernières années. Pour vous aider à comprendre ces chiffres, je tenais à y joindre la discographie de Pascal Obispo sur cette même période. Afin d'approfondir notre étude, je vous invite à écouter quelques extraits de son dernier album « Welcome to the Magic World of Captain Samurai Flower », qu'il aurait pu tout aussi bien appeler Hiroshima, le raccourci n'aurait choqué personne. Quoi qu'il en soit, pendant l'écoute, je vous demanderai de garder une main sur votre souris afin de quitter la page internet sur laquelle vous vous trouverez au plus vite en cas de danger.
Fort, non ? Ah oui, fort. C'est un instant savoir, comme ils disent sur le site, pour ceux qui ont soif de connaissances. Ça tombe bien, moi j'ai toujours soif.
Si une récente étude a montré qu'un utilisateur d'iPhone âgé de 30 ans était sexuellement plus actif qu'une personne du même âge utilisant une autre marque de smartphone, il serait tout de même intéressant d'aller plus loin dans l'étude de la sexualité et des nouvelles technologies. Pour cela, mon cousin et moi-même, tous deux âgés de 24 ans habitant à Paris, avons comparé notre rythme copulatif sur les 6 derniers mois et nous avons pu en tirer les conclusions suivantes. Une personne possédant un iPad a en moyenne 4 partenaires sexuels par mois, contre 0,6 en moyenne pour une personne possédant une console Nintendo portable. Une personne possédant un MacBook Pro a en moyenne 1,2 partenaires par rapport sexuel, contre 0,1 en moyenne pour un utilisateur PC. Enfin, un utilisateur de câble USB Apple a plus de 3 filles différentes qui lui ont proposé un dîner ce soir. Et je ne savais pas comment lui dire, mais l'utilisateur de câble USB classique se retrouve tout seul pour sa soirée console.
Ouais, ça a du sens, ça a du sens.
S comme sens, nom masculin, du latin sensus. Faculté par laquelle un organisme vivant, plante, animal, directeur de la maison de la culture de Sarcelles-Locher, etc., est renseigné sur certains éléments du milieu extérieur de nature physique. Vue, audition, sensibilité à la pesanteur, toucher, ou chimique, goût, odorat. Les organes des sens, chez Gégène et par extension chez l'homme en général, sont la vue, le goût, l'odorat, le toucher et Louis XIV.
Bon, c'est pas le tout, mais ça manque de musique dans ce wesh, non ? Non, de la zik, j'ai dit. Oui, c'est mieux. Ouais. Oui, c'est du brut, hein, d'accord. Mais du bon, faut bien le reconnaître. petit gars, il s'appelle Mastamik. Il est russe, il fait de la beatbox dans sa cuisine. Si on aime le gros son électro qui déchire et qui fait pas dans le mélodieux, eh ben je le recommande. Oui, alors lui, il fait plus dans le raffiné déjà. J'adore trop. Oui, t'as reconnu, c'est Pogo, mon idole, ouais. C'est le mec qui chope des bouts de film, les bruits, les sons, les morceaux de mots, et qui te rebidouille tout ça, qui te le remixe pour en faire des petits bijoux. Là, il s'est fait Blanche-Neige, Pogo. Wishery qu'il a appelé ça. Sympa, non ? Le plus fort, c'est que maintenant, bah, tu reconnais tout de suite son style à Pogo. Bah oui, au moins ça veut dire qu'il en a un de style. Bah oui. Et je trouve que ça va très bien avec les premiers Walt Disney, le style Pogo. Ça me rappelle les Silly Symphonies. Tu sais, les dessins animés Disney des années 30, en noir et blanc le plus souvent. Complètement musicaux, complètement déjantés, complètement créatifs. Tu sais, ça faisait un peu comme ça. Tu vois le genre ? Celui-là, c'est sans doute le plus connu des Silly Symphonies, c'est le premier. La danse macabre, Skeleton Dance, 1929. C'est graphique, c'est imaginatif, c'est délirant, c'est rigolo, moi j'adore. La grande époque des Silly Symphonies, ça s'achève en 1939, même s'ils vont continuer à en produire hein, jusqu'en 61. Moi je dirais qu'ils s'offrent un enterrement de première classe en 1940, avec ce que je considère comme LE chef-d'œuvre des studios Disney, l'aboutissement des Silly Symphonies, Fantasia. Oh bon ? Tu l'aimes pas, toi, Pompidou ? Tu préfères Roxy Rookie ? Quel con, ce chien. Non, Fantasia, pour moi, c'est le chant du cygne des Silly Symphonies. 2 heures de musique en images, ou de graphisme musical, comme tu veux, 7 extraits de chef-d'œuvre de la musique classique, réorchestrés et dirigés par Léopold Stokowski, avec l'Orchestre de Philadelphie. Chaque morceau raconte une histoire en animation, le plus connu restant, bien sûr... Voilà, l'apprenti sorcier de Paul Dukas, avec Mickey dans le rôle-titre. Alors bien sûr, le pauvre Paul Dukas, quand il a composé L'apprenti sorcier, il pensait sans doute pas que son œuvre resterait associée à l'image d'une souris dirigeant des balais avec sa baguette magique, ça c'est sûr, hein, ouais. Mais d'un autre côté, s'il n'y avait pas eu Mickey, est-ce que ce morceau, composé en 1897, serait aussi connu aujourd'hui encore, 113 ans plus tard ? Ça se discute, hein. Cela dit, L'apprenti sorcier, c'est pas forcément le morceau le plus original de Fantasia. À tête reposée, comme ça, on peut en préférer d'autres. Je sais pas moi, peut-être la nuit sur le Mont Chauve, de Moussorgski. Oui, ça fout les miquettes, ça, quand t'es petit. Il y a aussi un des intermèdes baptisé « À la rencontre de la piste sonore », illustré par des formes géométriques qui reproduisent, en dessin, les notes et les ondes sonores du morceau. C'est magique. Ou bien « La danse des heures » de Ponchielli avec des éléphants, des hippopotames et des crocodiles en tutu qui dansent le ballet. Ou « La naissance de la Terre » avec les dinosaures qui se bagarrent sur le Sacre du printemps de Stravinsky. Fantasia, c'était le troisième long métrage des studios Disney, après Blanche-Neige et Pinocchio. Et ils avaient mis le paquet sur ce film. Hein. Plus de 2 millions de dollars de budget, il paraît. C'était énorme pour un dessin animé. D'autant que le petit père Walt, il avait mis au point un système de diffusion du son hyper sophistiqué, qu'il avait appelé Fantasound. Et il fallait que tous les cinémas s'équipent de son système. Eh ouais. Et il distribue à chaque spectateur une brochure de 32 pages donnant des infos sur chaque morceau et expliquant le but du film. Et en plus, c'était un spectacle itinérant qui devait parcourir tous les États-Unis au lieu de sortir dans plein de salles en même temps. Et ben du coup, ça a fait un bide. Alors là, ils ont tout changé. Ils ont coupé le film pour le ramener à 88 minutes. Ils l'ont distribué normalement dans des salles normales avec un équipement sonore normal, tout ça. Et même comme ça, ça n'a jamais été un vrai succès, Fantasia. Ça restera toujours un Disney un peu à part, un peu maudit. Ah oui, la drogue. Ouais, ouais, t'as raison, Pompidou. Oui. Il y a des bruits qui ont couru à l'époque, selon lesquels les animateurs auraient conçu certains passages du film sous l'emprise de substances chimiques, disons, à effet hallucinatoire. Ouais, bon, ça n'a jamais été vraiment prouvé. Hein. Et moi, je dis, s'ils avaient vraiment conçu leurs animations sous LSD, bon, ça aurait pas ressemblé à ça, ce film. Ça aurait été beaucoup plus bordélique. Non, c'est surtout les spectateurs, dans les années 60-70, qui regardaient Fantasia après avoir consommé quelques psychotropes hallucinogènes. Mais bon, pas besoin de ça pour apprécier. Bon, où j'en étais, dis donc ? Oui, parce qu'on cause, on cause, et puis on perd son chemin. Hein. Je te parle de Pogo, puis on se retrouve à discuter de Fantasia. De fil en aiguille, de charib en syllabes, mine de rien, on se retrouve à descendre le Yangtze Kiang.
Y comme Yangtze Kiang. Le plus long fleuve de Chine, appelé aussi fleuve bleu, bien qu'il tire sur le rouge, alors qu'en Chine c'est interdit. Le Yangtze Kiang est un fleuve surprenant. Un de mes amis brasseurs d'affaires international, qui l'avait bien descendu et à qui j'ai demandé ses impressions, m'a répondu « Le Yangtze Kiang est un fleuve surprenant ». C'est bien ce que je disais.
Bon, et si on causait bootleg un peu, hein? Ouais, l'autre jour je t'avais fait écouter du wax audio, ça t'avait bien plu, tu m'avais dit. Alors là, je suis sûr que tu vas kiffer. Ça, camarade, c'est du lourd. Ça, c'est Go Home Production. Oasis versus Marvin Gaye, ça coule tout seul. Go Home Production, c'est Mark Widler, un DJ, VJ, producteur, remixeur, compositeur, qui s'est construit une réputation incontournable en quelques années grâce à ses mashups. Faut dire qu'il va te chercher des trucs assez improbables quand même. Mélanger les Jackson 5 avec Nirvana, faut y penser. I'm Ouais, y a rien qui l'arrête en fait. Plus c'est des univers différents, plus ça le fait kiffer, on dirait. Tiens, là c'est du Blondie. Tu te souviens de Blondie ? Ouais, forcément. Debbie Harry tout de même. Ah, Debbie. Bon, bah et quoi qu'il te la mélange, le gomme ? Eh oui, les Doors. Riders on the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Like a dog without a bone. An actor out alone. Riders on the storm. Marc Widler, il aime bien les valeurs sûres. Mais on va pas lui reprocher, hein. Par exemple, il aime bien Black Sabbath. Et puis il aime bien Queen aussi. Ben voilà, Paranoid Rock, de la belle ouvrage. Il a aussi un petit faible pour les mariages contre nature, l'ami Gaume. Comme un malin plaisir à gâcher la belle ouvrage, rien que pour déconner. Il a pas osé. T'entends ça ? Les Who. L'incroyable Baba O'Reilly des Who avec Like a Virgin de Madonna. Ben oui. Et le pire, c'est que ça le fait pas mal. Compris, Gaume Production, Marc Widler, une valeur sûre du bootleg. Quel bon goût en plus de mettre toute sa production en téléchargement libre et gratuit sur son site. Moi je dis, à ce prix-là, ça serait bête de s'en priver. Oh, et si on se matait un documentaire animalier ? Ouais, t'aimes bien ça, toi, Pompidou, les docu animaliers, j'en étais sûr. Lequel on met ? Sur les stouffettes ? Ouais, ok, allons-y pour les stouffettes.
De la Renaissance représentée dans les tableaux de maîtres. On a longtemps cru à un animal entre mythes et légendes, mais aujourd'hui, les stouffettes semblent refaire surface. Certains y croient et la traquent encore.
Il fait froid, n'est-ce pas ? Ça me rappelle la grotte de Pidourac, il faisait moins 20 degrés, j'y suis resté 4h37 avant de partir.
Ouais, c'est bien, surtout la nuit quand on peut pas dormir. Dommage, il y a de la pub.
Les poulets, j'en veux. Tout le monde en veut. Les poulets, j'en veux. Tout le monde en veut.
Sinon, les émissions littéraires, c'est bien aussi, hein.
Martine Boulier, bonsoir.
Bonsoir.
Je suis très heureux de vous recevoir dans notre émission Des mots, des concepts, des idées.
Merci.
Alors, vous avez écrit un premier livre qui s'intitule Uchromie, quel aurait été le bleu si Hitler n'avait pas existé ? Pouvez-vous nous en dire quelques mots ?
Ça va être compliqué, je n'ai pas écrit ce livre en fait. Ça doit pas être les bonnes fiches.
Ouais, mais revenons à l'estouffette.
Louis-Marie de Fursac a repris ses recherches récemment. Après un drame familial douloureux, il avait tiré un trait sur ce Graal. Pétri de doute, il a cependant répondu au courriel d'une proche, Zhang Yi Dupont, chercheuse à l'Institut zoologique de Tanlay. Il vient de faire une découverte bouleversante qui remet sur le devant de la scène l'animal mythique.
Vous l'avez vu ? Je suis pas le seul à avoir vu, là. Elle était... Papa, maman...
Oui, alors ça, c'est pas un vrai docu animalier, en fait. C'est une vidéo signée Hudner, dans le cadre d'un concours qui s'appelait 48 heures pour faire un film. Une sorte de concours, tu sais, où tu tires un sujet au sort, et t'as 48 heures pour faire le film, comme son nom l'indique. 48 heures pour faire un film. Et lui et ses potes, ils avaient tiré le sujet documentaire animalier. Alors ils ont inventé cette histoire de l'estoufette, et on s'y croirait.
Mes parents sont morts en cherchant l'estoufette. J'avoue que c'est pas... Pour moi, c'est pas simple...
Pour lui, le souvenir de ses premières traques familiales est nimbé de légende. Censé offrir la vie éternelle à qui le nourrira, l'estoufette a toujours été adulée par la noblesse. Il nous invite donc à le suivre pour une énième chasse, comme chaque jour, dans la lumière blafarde de l'automne.
C'est l'histoire de ma vie un petit peu, c'est-à-dire... La chasse... Finalement, elle me chasse...
Il nous conduit cette fois sur un terrain qu'il dit lui-même plus propice à la découverte, car cette région du Bas-Bourdon est peuplée d'une autre espèce singulière, le dindon à ailes touffues, connu pour avoir d'étroites similitudes génétiques avec l'estoufette.
Moi j'aime bien Hudner. J'aime beaucoup sa série Animalerie, des petits films d'animation avec des animaux en plastique. Là c'est des girafes.
Salut les filles! Vous avez vu?
Quoi?
Ma coupe!
Ben quoi ta coupe?
C'est une boréale.
C'est quoi une boréale?
Ben ça sert à séduire les ours polaires dans la savane.
Mais il n'y a pas d'ours polaires dans la savane.
Mais alors qu'est-ce que j'ai comme coupe? Attendez les filles, j'angoisse.
Hein?
Est-ce que j'aurais pas une boréale moi aussi en fait?
Mais on sait pas ce que c'est une boréale puisque ça sert à séduire les ours polaires dans la savane et que dans la savane il n'y a pas d'ours polaires.
Attends, demande au singe. Ouais, t'as raison. Michel, est-ce que j'ai la même coupe que Cindy?
Ah ouais, mais là, les filles, vous avez toutes exactement la même coupe.
Quoi? On a toutes une boréale?
C'est bien, hein? Ah ouais, c'est bien. Et c'est beau à regarder, en plus. Et quand il part en vacances, Hudner, il envoie des cartes postales. Vidéo, bien sûr. Là, il était à Montréal.
Montréal est une ville avec des gratte-ciels en verre, des immeubles en briques, des maisons en couleur et des écureuils en poils. À Montréal, on mange bien, avec les fameux bagels de Saint-Viateur. Des pains au sésame avec un trou dedans, parce que c'est mieux. À Montréal, on mange mal, avec la fameuse poutine, qui ne devient comestible qu'à partir d'un certain taux d'alcool dans le sang.
Ouais, moi j'aime bien voyager comme ça. Hudner, je vous le recommande. Ah ouais, c'est pas un bleu.
B comme bleu. Adjectif et nom masculin. Bleu, bleu, blef, blou, blou, blau, bla, 11e siècle. Qui est d'une couleur voisine du rouge, mais pas très. Un ciel bleu, des yeux bleus, les flots bleus, une opale cadette bleue. Figuré, boucherie, un steak bleu, s'emploie pour désigner un steak rouge. Figuré, en marine, bisu, faut pas me prendre pour un bleu, racame le rouge.
Ça a tweeté politique à donf hein, cette semaine, dis donc. Oh oui. Oh là là, il y en avait que pour le remaniement. Quel coup de théâtre. Oh. Dites Guyot.
François Fillon a démissionné. Il n'y a donc plus de Premier ministre. Cela ne change pas vraiment. Sarkozy est toujours Premier ministre.
Oui, c'est vrai, oui. À la longue, on s'habitue, hein, disparitus.
En France, désormais, quand il n'y a plus de gouvernement, personne ne s'en aperçoit.
Ben voilà. Après, quand il n'y a plus de gouvernement, ben, il faut attendre un nouveau. Alors j'ai attendu, avec le bœuf qui pleure.
Nicolas tarde un peu pour nommer Sarkozy Premier ministre.
Bon, heureusement, il y avait des journalistes pour nous tenir au courant. Ah oui, parce qu'il se passait rien quand même, hein, faut le dire. Alors il nous expliquait qu'il se passait rien. Vincent Glade.
Depuis 9h ce matin, des journalistes d'ITélé et BFM Télé commentent des arrivées de voitures devant l'Elysée. Nous ne les oublions pas.
C'est bien, ça, d'être solidaire. Maître Eolas aussi, il est solidaire, à sa façon.
Vu que mon téléphone ne sonne toujours pas, moi aussi, je choisis de ne pas appartenir au nouveau gouvernement.
Puis après, voilà, il y a le nouveau gouvernement qui est annoncé, et chacun y va de sa petite remarque. Super tweeto.
Éric Besson à l'économie numérique. Espérons qu'il ne confonde pas RAM et ROM.
Enfin voilà, quoi. Dès le lendemain, on parle d'autre chose. Mais bon, faut croire qu'il en reste quelque chose, quand même. Ça donne des idées, quoi, du gomo.
Oh, j'ai passé ma nuit à défollower, hein. Tout le monde, hein. On pourra refollower les mêmes, hein.
Hein? T'as reçu quoi? Un MNNS? Mais les M&M's, c'est des trucs au chocolat. C'est bon, ça, non? Ah non, c'est pas ça. Ah, un MMS. Un message audio. Ah, bah dis donc, c'est génial, ça. Et qu'est-ce qu'il y a dans ton MMS? La réponse à la devinette? Mais quelle devinette?
Avec la langue du pays,
ah ouais, d'accord. Ouais, je vois, oui, cette devinette-là. Ouais. Donc, t'as reçu une réponse par MMS. Trop moderne, ce chien. Bah, fais péter, qu'est-ce t'attends?
Salut, Pompidou, c'est Sylvain. Il paraît que Walter trouvait mon tweet un petit peu inaudible, alors je prends mon andouillette pour causer dedans et donner la réponse à la devinette. C'est 8 jours en Italie, de l'excellent Boris Vian. Voilà, merci pour tout, Pompidou. Continue comme ça.
Ah ouais, y en a que pour toi, hein. C'est normal, c'est toi qui fais tout. Ouais, pas faux. En tout cas, y en a qui me répondent, à moi aussi, figure-toi. Ouais, tiens, ma copine Mao, par exemple.
Salut Walter, c'est Mao. J'ai l'impression que tu t'habitues, alors je me sens un peu obligée maintenant de répondre à chaque fois. Donc la réponse à la dernière devinette du Wesh Wesh, c'était une chanson de Boris Vian, interprétée par Boris Vian, dont le titre est « 8 jours en Italie ».
Ah, tu vois, Mao, elle a trouvé aussi. Et il y en a même des qui ne trouvent pas qui me répondent. Eh oui, tiens, écoute, Petit Ours.
Salut Walter, c'était Petit Ours. Ça fait un petit bout de temps que je voulais te laisser un message. Mais manque de bol pour moi, ben, les devinettes du Wesh viennent de plus en plus dures. Donc du coup, là, j'ai vraiment pas trouvé, même avec ton indice. Donc, bah écoute, continue comme ça de toute façon, parce que j'aime beaucoup ce que tu fais, et voilà quoi, un petit bonjour à Pompidou, et bon courage avec les pingouins. Voilà.
Ah bah c'est sympa ça, merci Petit Ours. Ouais, il y a de l'écho chez lui, hein. Bah il doit vivre dans une grotte, hein, tu sais ce que c'est. Il paraît qu'elle a été très dure la devinette, ouais. Ouais, José, il a pas arrêté de râler sur Twitter que c'était trop dur. Alors j'ai filé un indice à ceux qui me follow sur la tweet machine. Bah t'as qu'à me follow et tu l'aurais eu l'indice. Et puis Mao aussi, elle en a donné les indices. Alors bah il a fini par trouver ce bougre de Finbaker.
Bonjour Walter, c'est José Finbaker qui cause dans le poste. Alors rapidement, un petit message pour te dire que j'ai séché la semaine dernière sur Steak. J'ai bien failli sécher cette semaine parce que j'étais parti sur un extrait de Western dans lequel jouerait éventuellement un acteur français qui jouait de la mandoline à une belle américaine. Fort heureusement, Mao a semé des petits cailloux blancs dans Twitter et donc j'ai pu raccrocher les wagons. Une fois que le bison ravi a été identifié, il n'a pas été très long de découvrir la vidéo. Donc la réponse au Wesh de cette semaine, c'est Vernon Sullivan, qui chante une chanson qui s'appelle 8 jours en Italie et qui est interviewée par une américaine, je suppose. Et il joue d'une guitare italienne tout à fait improbable. Voilà. Donc, merci Walter. Et puis, encore une fois, merci à Mao. Salut. Signé Finbaker. José Finbaker.
Ouais, c'est ça. Bison Ravi, Vernon Sullivan, tout ça, c'est Boris Vian, ouais. Mais c'est pas une américaine qui l'interviewe. Elle serait plutôt canadienne, selon Pop Goes the Wizard.
Bonjour Walter. C'est Pop Goes the Wizard qui tente sa chance pour la devinette du Wesh 53. Bon, j'ai triché de manière innommable.
Oh.
Et finalement, YouTube me dit que c'est Boris Vian et sa guitare harpe lors d'un enregistrement de la télévision canadienne en 1953 au 6 bis Cité Véron sur la terrasse du Moulin Rouge. J'espère que c'est la bonne réponse. Et puis si ce n'est pas le cas, c'est pas grave. Merci pour tout tes wesh et à bientôt.
Eh oui, c'est bien ça, bravo. 1953, Cité Véron, c'est là qu'il habitait, Boris. Et sa guitare italienne a une forme assez incroyable, c'est vrai. Hein, va voir la vidéo, tu verras. Je l'aime bien, cette vidéo, parce que c'est un des rares films où on voit Boris parler. Il y a beaucoup de photos de lui, bien sûr, beaucoup d'enregistrements sonores, évidemment. Celui-là, par exemple, que j'aime bien.
Pour vous donner un détail personnel, je suis venu à la pataphysique vers l'âge de 8 ou 9 ans, en lisant une pièce de Robert de Flair et de Caillavet qui s'appelle La Belle Aventure. C'est vraiment le dernier endroit où on peut s'attendre à en trouver quand on n'est pas pataphysicien. Mais elle contenait notamment cette réplique qui était à la création dans la bouche de Victor Boucher et que je vous donne pour conclure ce petit entretien préalable. Je crois qu'elle peut initier tout le monde très aisément et très rapidement à la pataphysique et c'est la suivante. Je m'applique volontiers à penser aux choses auxquelles je pense que les autres ne penseront pas.
Sans compter les chansons.
Je suis snob, c'est vraiment le seul défaut que je gobe. Ma demande et moi turbin, c'est une vie de galérien. Mais quand je sors avec Hildegarde, c'est toujours moi qu'on regarde. Je suis snob, foutrement snob. Tous mes amis le sont, on est snob et c'est bon.
Mais les enregistrements de lui parlant, ben, il n'y en a pas des masses. Oui, Boris Vian, c'est un peu un de mes maîtres à penser. Ah, c'est fou ce que j'ai comme maître à penser pour un mec qui pense si peu. Boris, c'était vraiment l'homme à tout faire. Un ingénieur qui écrit des romans aussi formidables que L'écume des jours ou L'automne à Pékin, des chansons aussi magistrales que Le déserteur ou La Java des bombes atomiques, un mec qui est membre du collège de pataphysique, qui fait des chroniques de jazz d'une acuité impressionnante, qui joue lui-même de la trompette dans les caves de Saint-Germain-des-Prés, qui édite un catalogue dans une maison de disques, c'est lui qui a inventé l'expression « tube » pour les chansons à succès. Un gars qui est condamné par la justice pour avoir écrit des polars à scandale et à succès sous un pseudo, qui écrit des scénarios de cinéma, des pièces de théâtre, un opéra, et qui fait aussi l'acteur, et tout ça avant 40 ans. Ouais, il est mort à 39. Ben moi je te dis que c'est quelqu'un qui mérite d'être cité parmi les bienfaiteurs de l'humanité. Et puis c'est tout.
Et quand je serai mort, je veux un suaire de chez Dior.
Bon, je pourrais t'en parler des heures de Boris, hein, mais on n'a pas que ça à faire. Il y a une autre devinette, non? Eh ben oui. Alors, t'as trouvé que c'était trop dur en ce moment, il paraît. Bon, introuvable, quelles sont les devinettes? Eh ben, je vais essayer de t'en faire une facile ce coup-ci. Enfin, j'espère. Écoute-moi un peu ça. C'est plus facile, ça? Eh ben, tu sais ce qu'il te reste à faire. Le Niphone, ou le droïde, ou l'SMS, comme tu veux, t'enregistres ta bafouille, et tu l'envoies à...
walter@linaudible.com.
C'est ça, mamie, walter@linaudible.com. Et si t'as rien pour enregistrer, eh ben, tu peux toujours aller sur le blog de l'Inaudible, linaudible.com. Et dans la colonne de droite, tu verras un gros rond rouge, c'est là que tu dois cliquer pour enregistrer ton message, et puis c'est tout. Quoi? Quoi, tu veux un indice? Encore? Bon. Eh ben, le gars qui chante dans la devinette, c'est un rouquin.
R comme rouquin, adjectif et nom. Familier, qui a les cheveux roux. Le rouquin est un mammifère vivipare omnivore assez voisin du blondinet. Pas trop voisin quand même, car le blondinet fuit le rouquin, dont on nous dit qu'il pue, qu'il est la honte de l'espèce, le banni pestilentiel au regard faux sous un sourcil rouille. Mais méfions-nous des jugements hâtifs. La femelle du rouquin n'est pas la rouquine. Aussi vrai que celle du coquin n'est pas la coquine. Ou alors si, mais pas forcément. En général, nous dirons que la coquine sied mieux au rouquin et la rouquine au coquin que la coquine au coquin ou la rouquine au rouquin. On reconnaît le rouquin aux cheveux du père et le requin aux dents de la mère.
Bon, voilà, c'est fini, tu peux circuler, y a plus rien à voir. Ça t'a plu? T'en veux encore? Si t'en veux encore, ben abonne-toi sur la thune, hein? Et puis mets-moi des étoiles sur la thune aussi, ouais, c'est bon pour ma carrière. Alors je te fais une grosse bise, à un de ces jours, amuse-toi bien si t'es dans ton bain, et tous à l'abri, si je suis à Paris.
P comme Paris. Ville de France, aux murs chargés d'histoire, et au sol couvert de crottes de chiens. Les premiers habitants de Paris s'appelaient les Parisiens à cause de leur habileté à glisser et à freiner dans les crottes.
http://www.linaudible.com